Au flux et à mesure, le magazine de Tchat FM, du lundi au vendredi à 18h. Lundi, Shifumi avec des archives ou des productions exceptionnelles.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Au flux et à mesure, nous vous proposons d'écouter un podcast de la série Penser les luttes de Radio Parleur, média indépendant spécialisé dans la couverture des luttes sociales. Aujourd'hui, Céline Extenso, du collectif féministe et antivalidiste Les Dévalideuses, parle de validisme avec Lou Bonnefoy. Elle explique ainsi ce qu'est le validisme, les avancées de la lutte antivalidiste et le futur de celle-ci. Bonne écoute.
Céline Extenso, bonjour.
Bonjour.
Tu es cofondatrice de l'association féministe et antivalidiste Les Dévalideuses, qui, depuis 2018, démonte les idées reçues sur le handicap. Pour commencer, à Radio Parleur, on a comme rituel de demander à nos invités de nous raconter un souvenir de lutte. Quel est celui que tu aimerais nous partager ?
Il y en a plusieurs, évidemment, parce que c'est des choses qui se construisent. Il y a plein de petites pierres qui comptent, mais je citerai en juin dernier, le 13 juin dernier, on a eu une manifestation à Paris pour la déconjugalisation de l'AAH.
L'AAH, c'est-à-dire l'allocation adulte handicapé, donc.
Et pour moi, c'est une manif qui a compté parce que c'était la première de mon expérience, en tout cas, et globalement en France, c'est assez rare, manifestation vraiment de personnes handies qui étaient très politisées. Et qui a fédéré, elle était lancée à l'initiative d'ACT UP Paris, et elle a fédéré beaucoup de militants et de collectifs militants anti-validistes. Et c'est une unité dans nos milieux handis qu'on n'avait jamais eue. Et c'était... Alors, on n'était pas hyper nombreux, je crois qu'on était moins de 200 au final, mais c'était hyper fédérateur et émouvant de voir qu'on était capable de parler d'une même voix et d'avoir une revendication fortement politique comme celle-ci.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
De revenir sur l'AAH et le combat que vous avez porté par rapport à ça, pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu peux nous définir le terme antivalidiste ?
Alors, on va définir le terme validisme surtout. Le validisme, c'est l'oppression, la discrimination qui s'applique aux personnes handicapées. On peut comparer ça au racisme, au sexisme et à tout ça. Disons qu'on peut lui voir deux formes particulières. Une forme qui paraît évidente sous forme de rejet, refus d'inclusion, insultes, psychophobes. Mais alors, psychophobe, c'est le validisme qui s'applique plus particulièrement à la folie, aux problèmes psychiques. Mais il y a aussi énormément de validisme qui se veut bienveillant, gentil, mais qui en fait passe par, qui se traduit par énormément d'infantilisation et de surprotection qui est en fait uniquement une mise à l'écart pour nous empêcher de prendre des décisions par nous-mêmes et d'avoir à nous aider, à nous prendre en charge, Et ça c'est beaucoup plus difficile à combattre parce que souvent les gens ont vraiment l'impression d'être gentils Et en fait, pour nous, c'est très, très violent.
C'est un terme qui n'est pas accepté par Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées.
Ouais.
Pourquoi pour vous c'est important de diffuser ce terme, et plus que ce terme, parce que c'est pas juste un terme, mais cette analyse en fait de la société et de la question du handicap.
C'est vraiment essentiel d'en passer par là pour pouvoir politiser le sujet du handicap. Pendant des années jusqu'à récemment. Le handicap dans la société a été perçu selon le modèle médical, qui est une vision complètement individualiste du problème, qui voit le handicap uniquement comme une déficience personnelle qu'il faut rééduquer, qu'il faut soigner.
Mmh.
Et depuis les années 70, dans les pays anglophones, on a commencé à voir émerger le modèle social du handicap, qui considère le handicap avant tout comme la résultante d'un environnement inadapté. Et ce point de vue, donc c'est la perception du validisme, et voilà, ce point de vue permet de travailler sur la société elle-même, replacer le handicap en tant que question collective, sociétale, et permet d'avoir des revendications politiques communes. On dit que le premier texte qui a mentionné le validisme en France date de 2004, qui était très bien, mais qui a encore passé inaperçu à l'époque, qui n'a pas fait boule de neige. C'est seulement depuis quelques années, sûrement énormément aidé par les réseaux sociaux, qu'un militantisme anti-validiste a commencé à se fédérer, à naître et à pousser ce terme de validisme qui, effectivement, est encore très, très peu connu du grand public et même des milieux militants. Et en France, le modèle social du handicap a mis beaucoup plus de temps à émerger pour différentes raisons.
Tu me parlais de l'impact et du poids des associations, des familles, des personnes handicapées.
Pendant très longtemps, la seule parole sur le handicap qui a été posée publiquement, c'était par de grosses associations de familles de malades ou de familles de personnes handicapées, comme l'APF, l'UNAPI pour ce qui est du handicap mental. Dans chaque type de handicap, nos paroles ont été captées par nos proches. Encore une fois, qui a été sûrement pleine de bonnes intentions, mais qui en fait portait vraiment une parole de valide. L'expérience du handicap par nous ou par nos proches, c'est pas du tout la même. Et au final, ces associations-là, en prétendant lutter pour nous, ont fini par ont été de base même des gestionnaires d'établissements spécialisés. Et font leur fric sur notre dos, en fait, quoi. Les militants antivalidistes sont absolument contre l'institutionnalisation, que ce soit en IME, donc c'est les versions scolarisées, ou les masses, les femmes, les foyers de vie, ou les ESAT, les centres de travail qui sont de l'exploitation. Et les associations gestionnaires sont énormes et sont les seules interlocutrices de l'État. Donc, quand l'État dit on consulte les personnes handicapées, on travaille avec elles, c'est faux, c'est avec nos valides de compagnie, quoi.
Alors, justement, avec les dévalideuses, vous vous organisez, notamment pour faire émerger cette parole. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme mission ?
En fait, à l'origine, on a créé les dévalideuses sur le constat de l'invisibilité des femmes handicapées dans le féminisme, en particulier à propos des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Les femmes handicapées sont beaucoup plus souvent victimes que les femmes valides. Or, on n'en parlait pas du tout. C'était il y a 3 ans, c'était la première marche Nous Toutes, et ce sujet était complètement absent des cortèges. Et donc, suite à ça, on s'est dit, bon, si on veut exister publiquement, politiquement, il faut qu'on s'organise. Et donc, une de nos premières missions, même si maintenant on étend notre champ d'action, c'est d'exister dans ces milieux-là, dans les milieux militants, qui travaillent déjà sur des sujets voisins des nôtres, mais qui ne pensent pas à nous intégrer, à leur lutte, à leurs événements, autant qu'à leurs théories. Donc, on essaye d'être là et de faire régulièrement pression pour se rappeler à leurs bons souvenirs, pour essayer de participer aux événements physiques quand la pandémie le permet et quand les conditions d'accessibilité le permettent. Et on voit encore une très bonne volonté au premier abord, mais derrière, il y a peu de moyens qui sont mis quand il faut remettre en cause ces pratiques militantes. On voit que derrière, il y a encore énormément de boulot.
Le terme validisme est un terme qui grandit, qui se développe dans les milieux militants. Là, tu parles quand même de freins. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ?
Quand on nous invite, évidemment, il faut que l'événement soit accessible. Mais accessible, quand les gens y pensent, ça veut dire un ascenseur ou pas de marche. Mais les gens n'envisagent pas du tout tout ce qui peut être autrement nécessaire pour l'accessibilité. C'est-à-dire que le handicap, c'est pas juste les fauteuils roulants, quoi. Il y a les personnes qui ont des handicaps psychiques, des handicaps visuels. On peut avoir besoin d'espace calme, de pouvoir lire sur les lèvres. Il y a plein de petites choses à prendre en charge. Et en particulier, il y a un gros point noir entre nous et les militants en ce moment, c'est le Covid. C'est un énorme révélateur de validisme parce que les personnes handicapées sont souvent plus à risque. Et ça a l'air d'être un poids insurmontable pour les valides de tenir compte de ça. Le validisme, c'est vraiment considéré qu'il y a 2 catégories de personnes, les bien portants et les handicapés. Et tant qu'on est du côté des valides, rien ne peut nous arriver et les handicaps sont un peu relous. Alors que dans le cadre du Covid, on sait quand même que c'est pas uniquement une question de personnes fragiles, mais que c'est aussi une question de santé communautaire publique qui concerne absolument tout le monde. Et dans des milieux militants, dans des milieux de gauche, c'est aussi un acte militant que de protéger la collectivité, de ne pas penser au chacun pour soi, les plus faibles qui restent sur le banc de touche. C'est vraiment pas une vision de gauche, quoi. La solidarité, c'est pas de la compassion, c'est pas de la pitié, de la générosité. C'est penser collectif, quoi.
Est-ce que vous avez vu des avancées dans certaines, que ce soit des associations, des collectifs ou des mouvements? Tu parlais tout à l'heure des manifestations Nous Toutes. Est-ce que depuis que vous existez, vous avez pu voir des évolutions dans ces milieux avec qui vous auriez collaboré ou travaillé?
Tout doucement, ouais. Dans les milieux très mainstream, donc nous on est surtout en contact avec les milieux féministes, des fois on a des très bonnes surprises, en particulier dans la presse féminine, qui des galas, des mademoiselles qui historiquement n'ont pas été hyper engagés, hyper vénères, finalement nous font des fois des très bons papiers sur le validisme. Après, les grosses associations, Nous Toutes et compagnie, honnêtement, on ne voit pas grand-chose. Il y a de la bonne volonté affichée, tout le monde se dit intersectionnel, mais dans les faits, il y a très peu de... Il y a très peu d'efforts concrets qui sont faits parce que chacun a le nez dans son propre guidon et ouvrir le champ, ça veut dire se décentrer un petit peu de sa propre lutte. C'est clairement y gagner parce que avoir une vision plus large, c'est avoir une vision plus intelligente et plus complète d'un problème. Mais ça, c'est souvent dur et ça avance lentement. On noue de plus en plus d'alliances quand même. Alors, avec des collectifs qui ont des... Au-delà des collectifs handicapés, on voit les collectifs qui peuvent avoir des luttes proches de nous. En particulier, il y a Grave Politique qui bosse sur la grossophobie et qui est un super allié. Il y a ACT UP qui est très concerné par les problèmes de santé et sous un angle très politique. Donc, petit à petit, on sent que les alliés se multiplient et qu'on va pouvoir s'étendre de plus en plus.
Tu parles d'une manière individualiste, finalement, de voir la crise du Covid, qui ne pense pas le problème comme un problème systémique, mais plutôt comme un problème de personne et qui met en avant d'abord la liberté individuelle avant le soin collectif. C'est vraiment la gestion de la crise du Covid qui est dénoncée par l'opposition politique et... plus largement tout un tas de militants. D'après ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'on peut faire le lien entre cette gestion individualisante et culpabilisante de la crise et la politique gouvernementale concernant les enjeux liés au handicap. Vous opposez à ça une approche systémique, féministe et intersectionnelle. Tu me parlais tout à l'heure, par exemple, de l'exemple des violences faites aux femmes handicapées.
Ouais.
En quoi cette vision systémique, elle permet de répondre, selon vous, de manière plus pertinente à tous ces problèmes ?
C'est hyper important de replacer ça dans un cadre féministe et politique, parce que dans l'imaginaire collectif, alors déjà, les femmes handicapées sont peu considérées comme femmes, au sens où elles sont peu désirables, elles sont peu des figures maternelles, enfin, tout ce que la société attend d'une mère, quoi. Et dans cette idée-là, les femmes handicapées ne vont pas non plus être victimes de violences sexuelles, parce que pas désirables, pas femmes, pas... Et quand il y a des violences sur les personnes handicapées, ça va être... On va parler de maltraitance, mais comme on parlerait de maltraitance à un enfant ou à un animal, alors que pour nous, c'est vraiment spécifiquement les femmes handicapées qui subissent ces violences. Les chiffres sont là, écrasants pour le dire.
On parle de 9% de femmes handicapées qui sont victimes de violences physiques et ou sexuelles, contre 5,8% des femmes sans handicap. Et parmi elles, 4% ont subi des violences sexuelles, contre 1,7% des femmes sans handicap. Donc évidemment, les chiffres sont plutôt parlants.
Ouais. Les hommes handicapés en subissent plutôt moins que les hommes valides. Donc c'est vraiment... se couper de cette vision-là, ce serait vraiment passer à côté du problème. Et on est très déçus des féministes valides qui ont énormément de mal à nous intégrer dans la donne.
Le Covid a quand même amené sur le premier plan, on va dire, médiatique et politique, les enjeux de santé, avec le fait que certaines mesures exceptionnelles soient acceptées, comme la facilité du télétravail, qui sont des mesures qui, pour vous, sont importantes. Et pour autant, c'est pas forcément une bonne nouvelle ou quelque chose d'extrêmement positif pour les dévalideuses. Est-ce que tu peux développer ?
On a eu des apports inattendus, comme les facilités d'accéder au télétravail, ou à des systèmes de livraison, de drive qui se sont développés, enfin, des choses qu'on demandait depuis longtemps et qu'on nous refusait toujours, c'était pas possible. Bon, bah là, si ça commence à concerner les valides, évidemment, ça devient possible. Donc, on espère que ça va durer sur le long terme. Sur la scène publique, c'est un intéressant de voir la façon dont ce discours validiste se diffuse, ou anti-validiste justement. En particulier, le Covid, c'est pas uniquement des morts et des gens en réa, c'est aussi le Covid long. On voit affluer des tonnes de nouveaux malades chroniques qui découvrent ce monde-là et qui s'en effrayent, évidemment. Et là, au bout de quelques mois, de presque deux ans de pandémie, on voit qu'ils commencent à rentrer dans un cycle de revendications un peu plus politisées aussi. Et assez rapidement, ils ont fait ce chemin politisé. Donc, c'est assez intéressant de les voir émerger et on espère s'entraider, même si on leur aurait souhaité une meilleure santé.
Un autre de vos combats, c'est l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé, qui, pour rappel, donc c'est une prestation sociale qui est versée aux personnes handicapées en France pour compenser l'inaccessibilité du monde du travail. C'est quelque chose dont on a récemment beaucoup entendu parler, puisque fin janvier, il y a une pétition qui a été déposée sur la plateforme en ligne du Sénat et qui a recueilli plus de 100 000 signatures pour exiger la déconjugalisation de l'AAH. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ?
Alors, l'AAH, oui, c'est ça. C'est quand les personnes handicapées ne travaillent pas, ne peuvent pas travailler du fait de leur handicap, on touche une allocation qui, au maximum à taux plein, s'élève à 900 euros et quelques. Donc, c'est pas fou, ça reste sous le seuil de pauvreté. Mais voilà, ça compense le fait de n'avoir droit à rien d'autre. Mais le problème, c'est que si on se met en couple avec une personne qui a des revenus elle-même, rapidement, on va nous supprimer notre droit à l'AAH. Sous prétexte de solidarité conjugale.
Pour qu'on comprenne bien, quand tu dis se mettre en couple, est-ce que c'est se marier, se paxer, ou c'est juste identifier auprès de la CAF ou je ne sais quoi, qu'on est en couple avec quelqu'un et qu'on vit avec cette personne ?
C'est ça, c'est vivre, il suffit de vivre avec cette personne. Il n'y a pas besoin d'officialiser le mariage ou un pax, ouais, juste être concubin. Le problème, c'est que évidemment, ça nous met dans la dépendance financière vis-à-vis de son conjoint ou de sa conjointe, ce qui n'est ni sain relationnellement, ni safe en cas de problème. Enfin, on sait que l'indépendance financière est une nécessité pour lutter contre les autres types de dépendance et de violence. C'est une première violence en soi. Et donc, les femmes handicapées qui sont victimes de violences conjugales se trouvent dans des impasses totales parce que pas de revenus pour s'échapper. Et pour pouvoir à nouveau toucher l'AAH, il faut prouver qu'on a déjà quitté le foyer. Et il va y avoir le délai administratif de quelques mois avant que ça rentre en ordre. Et en tant que personne handicapée, on a souvent d'autant plus de mal de trouver des solutions d'attente temporaires. Les foyers d'accueil de femmes handicapées sont rarement pensés pour accueillir nos handicaps. Nos entourages ne peuvent pas forcément nous accueillir quand on a un fauteuil roulant, des auxiliaires de vie, du matériel médical, enfin... Quitter son foyer, quand on est en vie, c'est d'autant plus dur, sans compter évidemment l'emprise et la difficulté psychologique et pragmatique que ça représente pour toute femme. Mais du coup, les femmes handicapées se trouvent vraiment dans un cumul de dépendances qui font qu'elles sont condamnées à rester avec leur bourreau. Et ça, c'est une revendication qu'on porte, nous, les personnes handicapées, depuis des années, mais qui était toujours refusée.
Donc, il y a eu cette pétition. C'est ce qui a été exigé via cette pétition, ce serait l'idée de déconnecter le calcul de l'AAH du statut de la personne handicapée, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Pour la première fois, on a eu énormément de visibilité publique La pétition a atteint les 100 000 signatures qui permettaient d'exiger une relecture par le Sénat. Et l'écho s'est fait très, très positif. À gauche comme à droite, tout le monde a soutenu cette proposition de déconjugalisation, sauf En Marche, qui s'y oppose fermement et qui a réussi à repousser le sujet, le projet à chaque passage à l'Assemblée nationale.
C'est assez impressionnant parce que je crois que ça n'était jamais arrivé qu'une pétition atteigne 100 000 signatures sur la plateforme du Sénat. Et pour autant, dans une tribune, toujours sur Mademoiselle, donc quelques mois plus tard, vous parlez, donc il y a quand même un texte qui a été étudié. Mais pour vous, ce texte, il est tout à fait minable. Et pour vous, le texte, il substitue à l'individualisation de l'âge, qui était la revendication, un vulgaire abattement forfaitaire sur les revenus de notre partenaire. De nouveau, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que c'est minable ?
En fait, pour faire passer le projet de loi, ils ont retapé complètement tous les articles qui pouvaient être intéressants et concernaient vraiment la déconjugalisation. Et maintenant, on nous vante qu'il y aura des modifications de l'AH qui vont concerner certaines personnes en couple qui, effectivement, auront une petite augmentation, mais il y en a d'autres pendant ce temps-là qui auront des pertes. Donc, c'est vraiment une modification cosmétique qui ne va rien coûter à l'État et qui ne va rien changer pour nous concrètement.
Et du coup, donc là, actuellement, où est-ce qu'il en est, ce projet de loi ? Et est-ce que vous en attendez toujours quelque chose ?
Alors, on sait que tous les politiques qui nous ont soutenus sont prêts à continuer à soutenir ce projet de loi. Mais pour qu'il repasse au Sénat, la partie qui nous intéresse en tout cas, on n'a pas de date d'échéance tout de suite. Parce qu'on est en attente des présidentielles qui vont évidemment occuper toute la scène. Mais en tout cas, tout le monde est prêt à ne pas lâcher et à relancer ce texte jusqu'à ce que la brèche soit assez grande pour le laisser passer.
Quand on voit ce qui a été donc fait de ce texte malgré le soutien, que ce soit dans les collectifs, les associations ou les partis politiques, si on ajoute à ça tout un tas de reports et de modifications, la liste est quand même très longue.
Ouais.
Donc on peut parler par exemple du report depuis 2015 de l'obligation de l'accessibilité des bâtiments, ou vous parlez aussi de la modification de la loi Elan, qui fait passer de 100% à 10% l'obligation de construire des nouveaux logements accessibles. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il n'y a eu aucune avancée concernant les enjeux liés au handicap en France ces dernières années ? Ce serait ça le bilan qu'on peut en faire ?
Ce serait triste, mais c'est un peu ça, oui. Non, j'arrive même pas à trouver les avancées. Le bilan de ce quinquennat est vraiment en dessous de tout. On a perdu tellement de droits, c'est terrifiant.
Et du coup, pour la suite, c'est quoi les pistes que vous envisagez pour continuer à faire avancer vos combats ?
Alors nous, on va continuer de la même façon entre activisme et pédagogie. Au niveau politique, il y a une chose très simple en tant que message à faire passer, c'est que en septembre dernier, il y a eu le rapport de l'ONU sur l'état des politiques liées au handicap en France, qui est absolument catastrophique. Enfin, le rapport est très bon et complètement à charge contre la France, qui ne respecte absolument pas la charte de l'ONU qu'elle a elle-même signée. Et l'ONU donne toutes les orientations de désinstitutionnalisation qu'on souhaite. Et quand les politiques, quand les partis viennent nous solliciter, nous demander ce qu'on souhaite des candidats à venir et des politiques à venir, on peut leur répondre très simplement, lisez le rapport de l'ONU, tout est dedans. Mmh. Et, et voilà, agissez, quoi. On ne demande pas de réinventer l'eau chaude à chaque nouvelle politique, mais commencez par appliquer ce qui a été décidé, et avec des contraintes, avec des obligations, et on en reparle après, quoi.
Est-ce que juste tu aurais un exemple, parce que là on a parlé des lois qui passent pas ou qui ont été rabotées, mais est-ce que tu aurais un exemple d'une loi qui existe et qui juste n'est pas appliquée en France?
Non, clairement, l'obligation des établissements à être accessibles, c'est quelque chose qui existe dans la loi depuis la loi d'orientation de 1975. En 2005, la loi a induit une obligation, mais avec plein de dérogations possibles. Et puis, du coup, il y a quelques années, il y a 2 ans, on a relancé avec les ADAPT, qui sont un nouveau système de dérogation possible, comme si on n'avait pas eu le temps de le faire avant, avec le truc incompréhensible que plus c'est des grosses entreprises, plus elles ont de délais. La SNCF, par exemple, a eu accès à un délai supplémentaire de 9 ans. Les trains, les gares ne sont pas encore toutes accessibles. Non, il y a clairement de la mauvaise foi et des reculs légaux pour satisfaire les entreprises d'année en année. On n'en voit pas le bout, quoi.
Est-ce que malgré tout, il y a des choses qui te donnent de l'espoir dans ce combat que tu mènes avec les dévalideuses?
Le milieu militant qui évolue tout doucement et commence à se fédérer. Mais ouais, l'espoir ne vient que de nous, hein, clairement pas des politiques.
Eh ben, écoute, merci beaucoup Céline pour cet entretien. On va le finir avec une chanson que tu as choisie, qui est Violette d'Anne Sylvestre. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 petits mots le choix de cette chanson?
Ouais, c'est pas une chanson purement militante en soi, mais Violette, c'est une chanson d'Anne Sylvestre que j'aime énormément, sur une vieille dame qui revendique son identité badass et qui refuse de se laisser marcher sur les pieds. Et moi, c'est vrai que le handicap, le truc le plus lourd de validisme que je subis, c'est vraiment cette infantilisation et cette idée que je serais vraiment quelqu'un d'inoffensif et de bien mignon à qui on peut caresser la joue. Le nombre de gens qui me caressent la joue, c'est et ça me pétrifie. Donc voilà, j'ai envie de dire que je suis pas une petite dame non plus.
Personne va me casser les pieds, a dit Violette à son boucher.
Super, donc on finit sur un symbole badass et avec Anne Sylvestre. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions pour Radio Parleur.
Et 80 ans et du ciel, plus de 20 fois arrière-grand-mère, votre dédain ne lui fait pas peur. Les quelques années qui lui restent, elle veut les vivre à fond la caisse, elle aime pas les rétroviseurs. Et c'est pas un marchand de barbac qui va lui casser la baraque. La 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 la. Venez pas dire que c'est gentil, que c'est un terme de sympathie, gardez votre condescendance. Savez-vous à qui vous parlez? Ne blessez pas sa dignité, ne la replongez pas en enfance. C'est une dure enfant de la guerre, c'est du chien dent, pas de la bruyère. Elle a eu faim, elle a eu froid. Elle a grandi coûte que coûte, avec la neige sur la route, les pieds sur des semelles de bois. C'est pas un professeur d'histoire qui va lui dire ce qu'il faut croire. La 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 la. Violette, elle a eu peur de rien, elle savait tenir tête aux chiens, aux menteurs et aux imbéciles. Elle a su se jeter à l'eau et repêcher quelques marmots d'une noyade trop facile. Sous sa coiffure en courant d'air, elle a plus de vocabulaire que vous n'en connaîtrez jamais. Pour ce qui est de l'art de vivre, elle en sait plus que tous vos livres. Nommez un arbre, elle le connaît. Et c'est pas un marchand de sornettes qui va lui en mettre plein la tête. La 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 la. Elle a fabriqué des enfants, pas pour en faire des perdants. Et elle a côtoyé des hommes. Celui qui la couve des yeux, c'est pas non plus un petit monsieur. Il mérite le respect tout comme Violette, c'est pas une petite dame, elle a vécu sa part de drame. Et si un jour elle doit tomber, quand vous la tiendrez dans vos griffes, comprenez qu'elle se rebiffe, vous qui viendrez pour la soigner. Et que c'est pas un marchand de médoc qui va lui dire qu'elle débloque. Mettez-vous bien ça dans la tête, c'est pas une petite dame, Violette.
Au flux et à mesure. Le magazine de Tchat FM, du lundi au vendredi à 18h. Lundi, Shifumi avec des archives ou des productions exceptionnelles.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Vous êtes toujours sur Jet FM dans Au flux et à mesure. Vous venez d'écouter un podcast de la série Penser les luttes de Radio Parleur sur le validisme. Vous avez ainsi pu écouter Céline Extenso du collectif Les Dévalideuses nous expliquer ce qu'est le validisme, l'avancée de la lutte contre ce validisme et ce qu'il reste à faire. À suivre dans l'immédiat, Rock à la Casbah. Bonne soirée sur Jet.